France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Haro sur Emmanuel Macron. Édouard Philippe, son ancien Premier ministre, demande à son tour son départ de l'Élysée, mais l'an prochain, pour permettre une élection présidentielle anticipée et sortir de la crise politique. Nous verrons cela, nous écouterons ce qu'en disent les Français, le récit d'une nouvelle matinée de négociations, et puis à partir de 13h30, l'avenir du chef de l'État. On en parle ensemble et avec nos invités 01 45 24 7000 pour être avec nous. À suivre encore, l'hommage aux victimes du 7 octobre, 2 ans après les attaques terroristes contre Israël. Nous serons sur le site du festival Nova dans un instant. Glaner des pommes de terre dans les champs après la récolte, un bon plan en ce moment. Reportage près de Dunkerque. L'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël qui emprunte auprès des particuliers pour financer ses projets. Et puis un prix Nobel de physique français. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour, c'est un spécialiste de physique quantique, il a 72 ans. Avec les deux autres lauréats, un Américain et un Britannique, ils ont mis au jour l'effet tunnel macroscopique, c'est du fondamental. On vous expliquera tout ça dans un instant, ça nous conduira un jour à l'ordinateur quantique.
Je précise son nom, il s'appelle Michel Devoré et on va donc vous le présenter. 13h45, notre feuilleton, nous sommes cette semaine au marché aux poissons de Fécamp, Normandie.
Je suis en train de finir les étiquettes par rapport aux achats de ce matin en crié.
En fait, il faudrait une équipe pour l'administratif et une équipe pour faire la poissonnerie. Voilà. Et là, t'es bien. Mais sauf que quand t'es un petit patron, c'est ta pomme qui fait tout ça.
C'est le début de la saison de la pêche à la coquille là-bas. 13h50, c'est la France. Une commune sur trois éteint son éclairage la nuit. Mais plusieurs ont décidé de rallumer, nous dira Cyril Petit du journal Ouest France. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson de la rumba congolaise avec le metteur en scène Dieudonné Nyanganois et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
De l'autre côté de la frontière, il y a encore le bruit des armes et le silence des otages. Ils sont encore 48, dont 20 présumés vivants, enlevés il y a 2 ans. Voilà le contexte dans lequel se déroulent aujourd'hui les hommages aux victimes du 7 octobre en Israël et partout dans le monde. Ainsi, tôt ce matin, sur le site du festival Nova, nous sommes tout près de la bande de Gaza, les commandos du Hamas y avaient tué plus de 370 personnes. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour à vous.
Vous êtes sur place pour Inter. Marie-Pierre, des centaines de personnes y ont participé.
Oui, elle voulait être là dès l'aube, là où tout a commencé. Et depuis, les proches des victimes se pressent dans le mémorial, cheminent entre ces simples piquets blancs qui portent les visages souriants des jeunes tombés ici. Le bruit régulier et sourd des obus vient rappeler que l'on est à quelques kilomètres à peine de Gaza. La cérémonie d'hommage débute par la construction d'une cabane. C'est le premier jour de fête de Soukhot. David y accroche la photo de sa fille, Lilia.
Le sens de la soukha, c'est de célébrer cette fête. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de fête, juste de la douleur.
Un peu plus loin, Lisa et Michael déposent des fleurs. Ils sont venus de Londres. Leur fils Jake était musicien. Le 7 octobre 2023, à 6h29, il a envoyé un premier message disant qu'il était rentré et rappellerait dès que tout serait terminé. Mais cet appel n'est jamais venu.
À chaque fois, c'est ici que l'on se sent proche de Jake. Son âme et son cœur sont ici. Il est enterré à Londres. On va voir Jake chaque dimanche, mais c'est ici qu'on se sent proche de lui.
C'est plus comme sa tombe pour nous.
Tous le disent, il n'y a pas de mots pour exprimer leur douleur, pour dire l'indicible. Mais ici, ensemble, ils se comprennent et se reconnaissent. Un peu plus loin, en treillis, fusil automatique en bandoulière, Alma se recueille devant la photo de l'un de ses amis. Elle dirige un groupe d'artilleurs. Elle était là le 7 octobre et ne cesse de revenir.
J'ai souvent emmené mes soldats ici pour qu'ils puissent vivre ce qui s'est passé, qu'ils le sachent et puissent en parler.
Comprendre ce qui s'est passé et surtout, surtout, ne pas oublier.
Merci Marie-Pierre Véraud, en direct du site de ce festival Nova avec les moyens techniques de Sandrine Malon. Ces attaques terroristes du 7 octobre ont fait 1200 morts en Israël. Quand la guerre menée en représailles par l'armée israélienne à Gaza, elle a tué plus de 66 000 Palestiniens, dont près de 20 000 enfants. Ce sont les chiffres du gouvernement du Hamas, sujet fiable par l'ONU et par de nombreux observateurs. Mettez fin aux hostilités maintenant, exhorte ce matin le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, alors que les négociations entre le Hamas et Israël se poursuivent en Égypte. L'onde de choc de ce 7 octobre a été ressentie partout dans le monde. Ces attaques ont fait 51 victimes en France et dans notre pays. Cela interroge la communauté juive sur ses liens avec Israël. Ainsi, les cours d'hébreu font le plein, notamment en région parisienne, comme un moyen de retrouver du sens. Reportage Mathieu Bonnour.
Dans le salon de Christophe, il y a cette série israélienne sur la télé. Dans Dans son bureau, le manuel d'hébreu toujours à portée de main. Sur le mur, un poster de Tel Aviv, souvenir de son dernier voyage en Israël, est tatoué sur son bras.
C'est le prénom de mes enfants, ma fille et mon fils. De la même façon, j'ai ici un peu plus haut, ça c'est le prénom de mon père.
Son grand-père maternel était juif, une histoire familiale un peu explorée. Puis le choc, le 7 octobre. Depuis, il est plongé dans l'apprentissage de l'hébreu qu'il ne parlait pas.
Le fait de parler l'hébreu, d'abord, ça montre un attachement à Israël, à sa langue et à sa culture. Et me reconnecter avec cette part de mon histoire, ça me paraît important. Quelqu'un m'a dit une fois en Israël, l'âme juive veut toujours rentrer à la maison.
Avec l'hébreu, Christophe se sent plus proche d'Israël. Il étudie dans une école dirigée par Yossi. Lui remarque chez ses élèves un besoin grandissant de se réapproprier cette langue.
Post 7 octobre, c'était une volonté de se rapprocher d'une certaine identité. Maintenant, le gros volume est sur des gens qui souhaitent apprendre l'hébreu pour un projet de départ.
Il est submergé par les demandes de cours, des centaines d'élèves supplémentaires en 2 ans.
Ça nous donne, en tant qu'école, une certaine responsabilité.
Yossi voit dans l'hébreu une langue pour unifier, se rapprocher et mieux comprendre les autres.
Mathieu Benour à Paris, un hommage sera célébré en début d'après-midi pour ces victimes organisées par le Conseil représentatif des institutions juives de France et en présence du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu. Macron démission. Alors il ne l'a pas dit comme ça ce matin, mais au fond c'est bien le message envoyé par Édouard Philippe, son ancien Premier ministre. Le maire du Havre, déjà candidat à la prochaine présidentielle, demande une élection anticipée dès l'an prochain et cela illustre la défiance, voire le rejet qui grandit dans l'opinion vis-à-vis du chef de l'État et nous serons dans son fief à Amiens dans une minute. Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
C'est la première fois qu'une figure du bloc central appelle au départ d'Emmanuel Macron avant la fin de son mandat.
Et c'est le fruit d'une longue réflexion après plusieurs réunions avec ses troupes ces derniers jours. L'entourage d'Édouard Philippe assure que les mots lâchés ce matin sur RTL sont pesés.
Il s'honorerait si par exemple il nommait un Premier ministre avec pour fonction d'exécuter les affaires courantes et de construire un budget, de faire adopter ce budget. Et qu'à l'issue, dès lors que la France est dotée d'un budget, et c'est indispensable, il annonce qu'il organise une élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire qu'il part immédiatement après que le budget a été adopté.
Jusqu'ici, Édouard Philippe s'opposait à une démission d'Emmanuel Macron. Un de ses proches explique ce revirement. Le patron d'Horizon considère que désormais, il n'y a plus d'autre option envisageable, puisque le socle gouvernemental avec les Républicains a implosé. Puis, une dissolution, c'est prendre le risque de laisser le pays ingouvernable. Mais l'entourage du patron d'Horizon tient à préciser qu'il n'appelle pas une démission immédiate, mais organisée, sereine et planifiée d'Emmanuel Macron.
Sonia, il y a un autre ex-premier ministre d'Emmanuel Macron qui prend ses distances, bon, sans aller jusqu'à l'appel à la démission, c'est Gabriel Attal.
Oui, devant les députés macronistes, ce matin, il a expliqué que cela risque de créer un précédent, de fragiliser notre équilibre démocratique. Voilà pour l'appel à la démission, mais comme sur France Inter ce matin, Gabriel Attal a déploré les décisions incompréhensibles d'Emmanuel Macron, celui qui doit son ascension politique au chef de l'État, dit être lucide, mais certainement pas ingrat au moment où le président est le plus affaibli.
Merci Sonia Gobry. Le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, David Lisnard, demande lui aussi la démission du président de la République pour sortir de la crise politique. Jean-Luc Mélenchon et ses insoumis, eux, plaident pour un départ depuis des semaines maintenant. La question a déjà été posée au chef de l'État. La dernière fois, c'était fin août, après l'annonce par François Bayrou qu'il allait solliciter un vote de confiance. Seriez-vous prêt à démissionner, monsieur le président?
Pour ce qui me concerne, je crois dans la démocratie. La démocratie consiste à ce que des gens votent pour un mandat donné. Le mandat qui m'a été confié par les Français et par personne d'autre est un mandat qui sera exercé jusqu'à son terme, conformément à l'engagement que j'ai pris à l'égard des Français, n'en déplaise, y compris à ceux qui ont été défaits à plusieurs reprises lors de ces mêmes élections.
Voilà la réponse du président de la République, c'était à la fin du mois d'août. Alors qu'en dit-on dans la ville natale du président, Amiens, Simon Le Baron y a tendu son micro ce matin.
À l'entrée de sa boutique de tatouage, Vivien souffle quand on lui parle du président.
J'ai juste envie de mettre en dessous du panneau d'entrée sur la ville d'Amiens, désolé pour Emmanuel Macron.
Lui aussi natif de la ville.
Ouais, je suis d'Amiens, ouais.
Titouan, 21 ans, a un avis tranché.
Ça donne pas une bonne image de la France, on va pas se mentir. Et franchement, je pense qu'il a fait son temps. Merci monsieur Macron, mais c'est il faut partir un moment, faut lâcher l'affaire.
Autre génération, Michel appuyé sur sa canne.
89 ans et demi, monsieur.
Ancienne macroniste désabusée.
J'ai pensé que je n'irais plus voter. Tellement j'en ai marre de la politique. Et j'ai voté pour lui. Oui, je le trouvais bien, mais maintenant, là, il ne fait que des bêtises. Hein.
Un peu plus jeune, un couple de retraités passe à côté de la boutique de macarons tenue par la famille de Brigitte Macron.
On n'est pas contre le président, pas du tout, mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'arrive pas à trouver une entente de toute manière entre les partis et ça devient catastrophique.
Ben allez, on y va, faut qu'ils partent, quoi. Et puis tout le monde revote et puis on repart sur des bonnes bases.
Ce n'est pas ce que pense Lucie, électrice de gauche.
À mon avis, il doit avoir un petit peu d'orgueil, quoi. Donc il ne va pas partir. Mais la meilleure chose à faire, franchement, c'est de prendre un Premier ministre de gauche. Hein. On essaye la cohabitation, donc il peut rester. Il vaudrait mieux qu'il reste parce que, évidemment, ce qui fait peur, c'est toujours le Front National. Hein.
Rassemblement National.
Oui, c'est le même.
Dans le département, 3 députés sur 5 sont du parti de Marine Le Pen.
Simon Le Baron en Picardie pour Inter. Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu qui a débuté ce matin ses consultations pour essayer à nouveau de trouver un accord entre les forces politiques. Le président de la République lui a donné jusqu'à demain soir. Sébastien Lecornu qui propose de concentrer les négociations sur le budget et sur la Nouvelle-Calédonie. Quand la gauche, elle, se divise sur la suite, division entre socialistes et insoumis, c'est un grand classique. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale. Laurence, à gauche, il y a à midi, ce midi, 2 propositions concurrentes pour gouverner.
Alors il y a l'offre de service des socialistes qui estiment leur heure désormais venue. Un gouvernement de gauche en rupture avec la politique menée depuis 8 ans par Emmanuel Macron. Fin des aides non ciblées aux entreprises, taxation des plus riches, suspension de la réforme des retraites. Le patron du PS, Olivier Faure, est candidat au poste et estime avoir obtenu d'une partie du socle commun l'assurance qu'un tel gouvernement ne serait pas censuré. Mais c'est faire fi de la bataille sourde à gauche. LFI considère qu'il faut redonner la parole aux Français, idéalement par une démission d'un président de la République responsable, selon eux, de la crise politique actuelle. Alors que le PS et la direction des communistes ont signifié leur fin de non-recevoir à une telle option, les écologistes Génération.S de Benoît Hamon ainsi que plusieurs députés communistes ont choisi de ne pas rompre. Le programme du nouveau Front Populaire est toujours d'actualité, selon eux, et ils en sont convaincus, jamais le président de la République ne nommera un socialiste qui remettrait en cause sa politique pro-business. Le PS nous refait son congrès en pleine bérésina, c'est irresponsable, tacle un cadre insoumis auquel les socialistes répondent à vouloir ajouter du chaos au chaos, vous pavez la voie du RN.
Laurence Perron à l'Assemblée avec les moyens techniques de Nicolas Mathias. J'ajoute que le Parti Socialiste sera reçu demain 10h à Matignon par le Premier ministre démissionnaire dans le cadre de ses ultimes tractations. Point commun entre tous ces élus de gauche, tous demandent à minima la suspension de la réforme des retraites qui a été adoptée en 2023 et qui repousse l'âge légal de départ à 64 ans. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Est-ce que c'est possible ça, suspendre la réforme des retraites, une réforme qui est déjà en application?
Alors c'est compliqué, mais techniquement on peut tout faire. Selon nos informations, les équipes de la CNAV, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, ont déjà commencé à réfléchir à cette éventualité ou comment il faudrait s'y prendre pour adapter l'outil informatique à un tel scénario, sachant qu'on ne pourrait pas non plus tout arrêter du jour au lendemain. Concrètement, vous l'avez dit, la réforme a commencé à s'appliquer avec un relèvement de l'âge de départ qui est en fait progressif, qui augmente de 3 mois par an jusqu'en 2030. Depuis le 1er septembre, le départ en retraite se fait ainsi à 62 ans et 9 mois. Alors pour ceux déjà entrés dans le dispositif, c'est trop tard. Revenir en arrière pour eux mettrait un peu le bazar selon les équipes de la CNAV. Par contre, imaginez geler l'âge de départ au 1er janvier, c'est envisageable, encore une fois techniquement, le 1er janvier où l'âge de départ doit passer à 63 ans. En gros, on n'irait plus jusqu'à 64, on couperait la poire en deux, ce qui aurait un coût de plusieurs millions d'euros à court terme selon les syndicats, mais possiblement un manque à gagner de 6 à 7 milliards pour le régime à un horizon plus lointain.
Maxime Debs pour ces informations. Alors parmi les scénarios possibles, on vient de parler démission, nomination d'un nouveau Premier ministre. Troisième option, celle défendue par le Rassemblement National, la dissolution de l'Assemblée et retour immédiat aux urnes. Le parti de Marine Le Pen s'y voit déjà. Bonjour Lise Rosevey.
Bonjour.
Parti qui fait même déjà des appels du pied aux Républicains pour former un gouvernement.
Oui, Jordan Bardella tend la main ce matin aux LR qui, je cite, « ne veulent pas se fondre dans le macronisme ». Il est prêt à conclure avec eux un accord gouvernemental, mais seulement si le Rassemblement National n'obtient qu'une majorité relative. Si le parti décroche par exemple 240 sièges, il devra trouver des compromis pour avancer. La porte serait alors grande ouverte aux Républicains. Ce parti pourtant détesté par de nombreux cadres frontistes. Ce ne serait pas un accord d'appareil, s'empresse de préciser un lieutenant. mais des alliances avec des individualités. Sur le terrain, des députés RN et LR discutent déjà régulièrement, se projettent. L'idée fait son chemin, sourit un cadre RN, qui assure que certains républicains ont changé, dégoûtés par l'alliance de leur parti avec la Macronie. Dans le parti de Bruno Retailleau, d'ailleurs, le cordon sanitaire avec le RN n'est plus qu'un bout de ficelle. Encore ce matin, interrogé sur la législative partielle dans le Tarn-et-Garonne, qui oppose une candidate socialiste et un candidat RN-UDR, le ministre de l'Intérieur démissionnaire a répondu « pas une voix à la gauche ».
Lise Rosveil et à l'instant, Jordan Bardella et Marine Le Pen annoncent qu'ils déclinent l'invitation de Sébastien Lecornu à venir rencontrer le Premier ministre démissionnaire dans le cadre de ces négociations à Matignon. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'état de ces discussions politiques alors que la France en est à trois premiers ministres tombés ou renversés en un an. Je voudrais vous proposer maintenant deux photos des Français qui nous renseignent sur vos préoccupations du moment. D'abord, dans une entreprise de bâtiments et travaux publics. Nous sommes à Saint-Denis, au nord de Paris. Là, c'est la crainte du ralentissement économique. Luc Chemla sur place.
Pendant que les camions de chantier vont et viennent devant le siège de l'entreprise, le patron est lui dans son bureau, les yeux rivés sur son téléphone, où il suit à la minute l'actualité politique. Francis Dubrac exprime sa colère.
Au moment où il y a le vote du budget qui est si important pour les investissements de l'année prochaine, qui doivent donner de la visibilité aux chefs d'entreprise. On a des gens qui jouent à la guéguerre politique.
Pourtant optimiste de nature, il se dit aujourd'hui inquiet. 95% de ses clients sont des élus locaux. Il craint désormais de se retrouver face à un interlocuteur frileux.
S'il est dans une situation d'instabilité politique, il ne va pas se lancer dans des grands investissements. Là, on va tout freiner parce qu'on attend des aides de l'État pour ceci, des nouvelles normes pour cela, et ça ne va pas arriver puisqu'il n'y a pas de ministre.
Résultat, lui-même s'interroge.
Est-ce qu'il faut que j'embauche en ce moment des gens pour remplacer ceux qui partent à la retraite? Est-ce qu'il faut investir? Est-ce qu'il faut remplacer les machines? J'ai pas de lisibilité.
Une incertitude qui pèse sur les 400 salariés, même si Audrey, qui travaille aux ressources humaines, tente de garder la tête froide.
Pour l'instant, on le vit au jour le jour. On se pose pas trop de questions, sinon ça devient anxiogène. On attend de voir à quelle sauce on va être mangé.
Audrey dit surtout penser au remboursement de son crédit, elle qui s'est endettée sur 25 ans.
Et puis il y a, pour beaucoup de consommateurs, le frigo à remplir quand l'argent manque. Solution en ce mois d'octobre, aller glaner dans les champs. Oui, comme dans le tableau Les Glaneuses de Jean-François Millet, ainsi des pommes de terre après l'arrachage des pieds. C'est le cas près de Dunkerque où s'est rendu Chloé Martin.
Loan avance les yeux rivés par terre.
Ils sont beaucoup coupés, entre moi il y en a.
Qu'il ramasse avec Mila, sa fille de 6 ans.
J'ai trouvé tous les petits et les grands.
Petites ou grandes, les pommes de terre finissent toutes dans un grand sac de course qui commence à être bien rempli pour Justine.
Un petit 2 kilos, je pense. Maman avec 4 enfants, donc on prend ce qui est à prendre.
Pas de petites économies non plus pour Peggy.
Ben, surtout quand on est des grandes familles, on n'a pas trop le choix. Parce que maintenant, les temps, ils sont durs. Et bon, comme tout augmente, les taxes augmentent, on est obligé d'essayer de trouver un moyen pour s'en sortir à la fin du mois.
C'est pour ça que Vincent de Zitter, l'agriculteur propriétaire du champ, communique sur les réseaux sociaux. Il prévient les glaneurs que telle ou telle parcelle leur est accessible, car même si les machines sont de plus en plus performantes, il y a toujours une perte d'environ 1%.
Sachant qu'une bonne année, on produit 55 tonnes hectare, même 1%, ça fait encore 5 tonnes dans le champ par hectare qui reste.
Avec le glanage, c'est donc du gagnant-gagnant.
La moindre pomme de terre qui va rester sur le champ, l'année suivante, quand je vais mettre une autre culture, la pomme de terre va repousser. Donc les gens, en venant glaner, nettoient tout simplement le champ naturellement.
Ils donnent donc rendez-vous aux glaneurs l'année prochaine sur d'autres parcelles.
Un reportage ici Nord.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
La France est bloquée, mais l'Europe, elle, continue de tourner. La Commission européenne dévoile aujourd'hui toute une série de mesures pour protéger l'industrie européenne de l'acier, la protéger notamment de la concurrence chinoise. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Strasbourg. Fabien, la Commission propose une forte hausse des droits de douane. Elle s'y met à son tour.
Effectivement, c'est exactement la même mesure qu'a prise Donald Trump aux États-Unis pour protéger son marché intérieur. Un relèvement des droits de douane à 50% sur l'acier, c'est surtout l'acier chinois, en effet, qui est visé. Des quotas d'importation plus sévères seront également introduits. Pas plus de 10% de l'acier utilisé en Europe. L'Union européenne peut être largement autosuffisante, explique le commissaire à l'industrie Stéphane Séjourné. Selon lui, ces nouveaux droits de douane auront un impact minime sur les prix.
Ça correspond à 1 euro pour une machine à laver. Ça correspondra probablement à une cinquantaine d'euros, pas plus, pour une voiture. Mais c'est le prix de la souveraineté, c'est le prix des emplois également partout en Europe. Aujourd'hui, le secteur de l'acier en tant que tel, c'est 300 000 emplois directs dans 20 pays, c'est 2,5 millions d'emplois indirects, mais c'est aussi notre capacité de produire pour nous-mêmes.
Une quête d'autonomie qui rejoint les demandes insistantes des grands industriels européens à qui la Commission demande notamment de produire de l'acier vert obtenu en électrifiant des hauts fourneaux, de très lourds investissements, Jérôme, que les sidérurgistes européens conditionne à la protection du marché intérieur.
Fabien Cazot, la Commission européenne, mise sous pression également par le chancelier allemand Friedrich Merz, qui lui demande de revenir sur l'interdiction de la vente des véhicules thermiques dans l'Union européenne, prévue à partir de 2035. Le chancelier allemand accorde une interview à la chaîne NTV. Notre industrie automobile souffre, la Chine nous concurrence sur l'électrique. Alors, dit-il, il faut continuer avec les moteurs essence.
Je ne veux pas que l'Allemagne fasse partie des pays qui soutiennent cette mauvaise interdiction. Cela ne veut pas dire que nous encourageons les moteurs thermiques, mais nous continuons à les autoriser parce qu'ils sont nécessaires, par exemple pour les camions. Si vous interdisez une technologie, que ce soit aujourd'hui, demain ou après-demain, toutes les entreprises vont cesser immédiatement de travailler dessus. Et c'est une grave erreur. Dans le monde entier, la recherche et le développement se poursuivent. Je souhaite que l'Allemagne, que notre industrie continue à y participer. Dans quelques années, nous verrons peut-être apparaître des carburants synthétiques qui permettront de continuer à faire fonctionner ces moteurs à combustion tout en respectant l'environnement.
Friedrich Merz, traduit par notre correspondant en Allemagne, Sébastien Baer. La quantité n'est pas au rendez-vous pour les vendanges 2025. Le volume sera à peu près le même que l'an dernier. Il était déjà faible selon les estimations du ministère de l'Agriculture. Moins de 36 millions d'hectolitres en raison notamment de la canicule du mois d'août. C'est une initiative qui est encore très rare dans notre pays. Un hôpital qui a recours à un emprunt rémunéré pour financer ses achats. Il s'agit de l'hôpital de Fréjus-Saint-Raphaël. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour Jérôme.
En deux mois, cet établissement a levé 50 000 euros pour acheter des équipements.
Ah oui, 50 000 euros pour financer une gamma caméra utilisée pour observer le fonctionnement des organes et prévenir certains cancers. Un emprunt citoyen rémunéré à hauteur de 3% pour les investisseurs. Frédéric Limousy est directeur du centre hospitalier intercommunal de Fréjus-Saint-Raphaël.
Au lieu de faire un emprunt à une banque à un certain taux, ce système-là permet d'avoir un taux d'emprunt plus faible. Donc je dirais que tout le monde est gagnant. L'hôpital arrive à se financer avec un taux plus intéressant et les personnes qui investissent dans ce projet, ils font rémunérer leur propre argent.
Un peu plus de 50 citoyens ont choisi d'investir dans ce projet, des participations allant de 10 à 8 000 euros avec un investissement médian de 500 euros. Le profil de ces investisseurs est très intéressant. 1 sur 4 vit à moins de 70 km de l'hôpital. On retrouve aussi un peu moins de 10% des soignants de l'établissement. Des citoyens qui ont trouvé du sens dans ce projet, comme l'explique le directeur de l'hôpital. La mauvaise santé financière des hôpitaux a aussi poussé les décideurs à lancer cet emprunt citoyen.
Là où il y avait une opportunité, et peut-être qu'à 10 ans, cette idée-là n'avait pas fait son chemin non plus. On saisit l'opportunité d'une possibilité qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, et en même temps, la situation des hôpitaux est moins bonne financièrement et budgétairement qu'il y a 10 ans. Voilà, c'est je dirais que la conjoncture des deux fait qu'on doit être de plus en plus imaginatif.
D'autres hôpitaux se sont déjà renseignés pour peut-être copier le modèle. Quant à l'établissement de Fréjus-Saint-Raphaël, il prévoit déjà un nouveau recours à cet emprunt citoyen pour le premier semestre de l'année prochaine.
Victor Dolande pour ses explications. On en vient donc à ce prix Nobel de physique attribué ce matin à trois chercheurs, un Américain, un Britannique, un Français, John Martinis, John Clark et Michel Devoré, récompensé deux ans après Anne L'Huillier et Michel Agostini. Sophie Bécherel, on vous retrouve. Michel Devoré et ses collègues travaillent sur la mécanique quantique. Qu'ont-ils découvert ?
L'effet tunnel quantique macroscopique. Je vous explique ça dans un instant, mais déjà, d'accord, qui sont ces trois lascars ? Oui. Eh bien, ils se connaissent depuis longtemps. Ils se sont rencontrés il y a une quarantaine d'années. John Clark était alors chef d'un labo à Berkeley, une université prestigieuse américaine, quand il a accueilli Michel Devoré, post-doctorant, et John Martinis, un peu plus jeune, il faisait sa thèse. Donc, leur dada, c'est la physique quantique, celle de l'infiniment petit. Vous le savez, les règles ne sont pas du tout les mêmes que celles de la physique classique. Et ce qu'ils ont donc mis en évidence, c'est l'effet tunnel macroscopique. Julien Bobrov, physicien au CEA, où a longtemps travaillé Michel Devoré, nous explique les travaux qui leur valent ce Nobel.
Alors l'effet tunnel, c'est un effet de physique quantique qu'on aime bien parce que c'est l'idée qu'une particule, quand on la met face à un mur, face à une barrière, arrive parfois à passer à travers. Et ça, on le connaissait assez bien en fait en physique quantique, presque depuis le début de la physique quantique, mais ça marchait que pour des toutes petites particules. Et là, ce prix Nobel, ce qui récompense fondamentalement, c'est le fait d'avoir réussi à faire ça un effet tunnel, c'est-à-dire on passe à travers une sorte de barrière, mais à grande échelle. Alors pas à l'échelle d'un humain, mais à l'échelle d'un petit circuit électronique. Et ça, ça a ouvert des perspectives incroyables.
Puisqu'on pouvait utiliser toutes les propriétés quantiques sur un circuit électronique, plus besoin de travailler à l'échelle de l'atome, vous l'avez compris, le circuit tient dans la main. On voit avec nos yeux des effets invisibles jusque-là, et ça a débouché sur des applications insoupçonnées au départ.
Il se trouve que John Clark, un des trois récipiendaires du prix Nobel, avait développé notamment des squids, c'est des sortes de petits anneaux, justement, utilisant ce principe-là, qui sont les meilleurs détecteurs au monde de champs magnétiques. Les géologues, par exemple, vont les utiliser pour mesurer le champ magnétique terrestre.
Plus récemment, c'est devenu une des briques de base de l'ordinateur quantique. Ceux qui marchent le mieux utilisent ces petits circuits supraconducteurs. Bon, il va falloir refroidir énormément, hein, ça se passe encore en laboratoire. Mais vous voyez, on progresse. Michel Devoré est donc récompensé, vous l'avez dit, après 2 ans après 2 autres Français.
Et Alain Aspect, il y a 3 ans, il y a beaucoup de Français, ça devient
ce
une spécialité française.
Ce qui dit l'excellence de l'école physique française, en effet.
Pour la physique, je voudrais qu'on revienne sur le prix Nobel de médecine. Vous nous en avez parlé hier, ici même. Voilà, exactement, on en a parlé hier. Il se trouve que l'un des chercheurs américains qui a été récompensé n'a pu être joint au téléphone, car
mais
il était parti en grande randonnée.
Ce monsieur
est-ce qu'on a de ses nouvelles?
Nous n'avons pas de ses nouvelles. Visiblement, il est toujours dans une zone blanche où son téléphone ne capte pas. Moi, j'ai envie de vous dire, heureux homme, parce que tous les récipiendaires du Nobel vous disent qu'à partir du moment où Stockholm vous appelle, ça devient l'enfer, votre vie.
C'est peut-être pour Michel Devoré qu'on espère pouvoir écouter et longuement sur cette antenne, s'il nous entend, qu'il sache qu'il est le bienvenu. Merci Sophie Becherel, 13h26 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à 13h30, Emmanuel Macron dans le viseur, appelle à une présidentielle anticipée, venu de tous les bords politiques, à une démission, une destitution du chef de l'État. Voilà des appels qui se succèdent et qui sont de plus en plus nombreux depuis la démission hier du Premier ministre Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron sous pression, on en parle avec nos invités et avec vous. Appelez-nous 01 45 24 7000 pour vos questions pointues, notamment sur la Constitution. Le constitutionnaliste Jean-Philippe Desrosiers sera avec nous. 13h45, notre feuilleton. Nous sommes cette semaine au marché aux poissons de Fécamp, où on se lève tôt, vous allez le constater. 13h50, c'est la France, c'est une chanson. Cyril Petit, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Cyril, où nous emmenez-vous aujourd'hui?
Eh bien Jérôme, de Machecoul-Saint-Mesmes en Loire-Atlantique à Orléans dans le Loiret, en passant par Émoulins en Haute-Saône, on parlera de ces communes qui rallument l'éclairage public ou qui innovent dans les lampadaires qui rallument la nuit, évidemment.
Oui. Et avec vous, Frédéric, un auteur.
Oui, on de la lumière,
pas, on rallume pas la lumière la journée, toujours. On la rallume la nuit.
Un auteur, comédien, metteur en scène, Dieudonné Nyanguna, dont le nouveau spectacle est présenté cette semaine à l'Athénée à Paris. Et avec lui, nous écouterons de la rumba congolaise.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Frédéric Lenoir.
Pourquoi Sapiens, l'être humain, est-il aussi un homo spiritus ? Pourquoi sommes-nous le seul animal qui cherche à donner du sens à sa vie et qui croit en des forces invisibles? Pour vous, j'ai remonté le temps pour comprendre comment sont nés les grands courants spirituels et religieux de l'humanité.
L'Odyssée du Sacré, de Frédéric Lenoir, enfin au livre de poche.
Savez-vous qu'il est possible de faire un legs au Secours Populaire Français?
Oui, et c'est pour moi la plus belle manière d'agir pour un monde plus juste et plus solidaire. Grâce à mon legs au Secours Populaire, je suis sereine. Je sais que le peu que je possède servira à une cause et des valeurs qui me sont très chères.
Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre.
France Inter présente le prix BD Fnac France Inter 2026, parrainé par Rebecca Manzoni.
Si vous voulez faire partie du jury du prix BD Fnac France Inter, c'est maintenant.
Jusqu'à ce soir, rendez-vous sur prixbdfnacfranceinter.com pour déposer votre candidature. Vous aurez peut-être la chance d'être sélectionné dans le jury et élire les 5 finalistes parmi les 20 BD de l'année, sélectionnés par les libraires Fnac et la rédaction de France Inter. Rendez-vous sur prixbdfnacfranceinter.com.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Plus de soleil aujourd'hui et des températures en hausse.
Oui, les températures gagnent quelques degrés. Elles sont souvent 2 à 3 degrés au-dessus des moyennes de saison. Alors comptez 16 à 22 degrés sur le nord jusqu'au Massif central et aux Alpes. Il fait plus chaud sur un tiers sud avec 22 à 25 degrés du sud-ouest à la Méditerranée. Côté ciel, le soleil progresse. Il brille franchement sur toutes les régions du sud jusqu'à la Franche-Comté, au centre-Val de Loire, au sud du bassin parisien et de la Normandie et jusqu'à la Bretagne. Il reste un petit peu de mistral en vallée du Rhône jusqu'à 40 km à l'heure. Du littoral de la Normandie vers le nord de la Seine et le Grand Est, là c'est quand même plus partagé, nuages et éclaircies alternes, des nuages qui restent assez nombreux sur le Nord-Pas-de-Calais et des Ardennes au nord de l'Alsace. Et puis pour demain, à nouveau une journée bien calme avec du soleil au sud et beaucoup de grisailles sur les régions du nord.
Elodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Jean-Philippe Derosier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public, titulaire de la chaire d'études parlementaires à l'Université de Lille. On a énormément de questions à vous poser parce que plus les heures passent depuis le scénario d'hier matin, la démission du Premier ministre Sébastien Lecornu remise à Emmanuel Macron 14 heures seulement après la présentation de son gouvernement, plus le temps avance, plus il y a de scénarios qui s'esquisse et celui qui a repris de la vigueur, en tout cas qui est porté avec davantage de force depuis ce matin, c'est celui d'un départ anticipé du chef de l'État. Alors Jean-Luc Mélenchon et ses insoumis le demandent depuis longtemps. On a entendu hier David Lisnard, le maire de Cannes, également président de l'association des maires de France. Hervé Morin, président de la région Normandie, demande aussi cette démission. Et dernière en date ce matin, Édouard Philippe, pas n'importe qui, ancien Premier ministre, pendant 3 ans, 2017-2020, d'Emmanuel Macron appelle à une démission pour organiser une présidentielle anticipée. Est-ce que ça, c'est une possibilité qui est offerte par la Constitution ?
Alors, la possibilité existe, bien sûr. Emmanuel Macron peut démissionner quand il le souhaite. C'est sa décision et il peut, bien sûr, annoncer qu'il démissionnera à une certaine date. En revanche, il ne peut pas présenter sa démission aujourd'hui en disant qu'elle aura effet dans 6 mois. Il peut dire « je démissionnerai dans 6 mois » s'il le souhaite, mais si d'ici 6 mois il change d'avis, ça n'engage que lui-même en réalité. Et comme le disait un ancien président de la République, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.
Jacques Chirac.
Et donc voilà, il peut tout à fait. Après, évidemment, s'il prend l'engagement de démissionner dans 6 mois, politiquement ça lui sera très compliqué
de revenir sur sa parole.
De revenir en arrière, d'autant plus qu'il n'est pas forcément adulé par ses concitoyens au point de justement remettre en cause cela. Mais en 6 mois, plein de choses peuvent se
passer. Dernière enquête IFOP donne une majorité de Français favorable à la fois une dissolution et à la fois une démission d'Emmanuel
Après,
Macron.
Après, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est là la bonne solution ? Et nous traversons une crise politique et parlementaire depuis en réalité un certain temps, plusieurs semaines, plusieurs mois et peut-être même plusieurs années, mais qui s'est cristallisée avec le départ constitutionnel de François Bayrou, qui avait demandé la confiance à l'Assemblée nationale. Il ne l'a pas obtenue et il a été contraint de démissionner. La réponse classique et démocratique à une telle crise parlementaire, que nous avons déjà connue, nous, en France, notamment en 1962, que d'autres pays ont connue, c'est la dissolution. Raison pour laquelle, il me semble que, d'un point de vue à la fois constitutionnel, à la fois démocratique, la seule solution, c'est la dissolution et pas le départ du président de la République.
Sur la démission, donc il n'y a pas de démission différée. S'il démissionne, il décide de démissionner, il l'annonce et il s'en va.
S'il démissionne, en effet...
Immédiat.
S'il présente sa démission, sa démission est immédiate.
Ça, c'est le général de Gaulle.
C'est le général de Gaulle qui a présenté sa démission en 1969 et a dit cette décision prend effet aujourd'hui à midi. Alors, il peut dire que ça prendra effet demain à 14h s'il
le
souhaite.
Mais pas dans six mois.
Voilà.
Michel nous appelle du département de Haute-Loire. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je suis tout à fait d'accord pour la proposition de M. Philippe d'avoir une élection présidentielle anticipée, mais pour éviter le cirque qu'on a connu au cours des derniers mois, il faudrait que la Constitution permette qu'il y ait un scrutin uninominal à un seul tour pour les élections législatives, de manière à ce que la majorité présidentielle dispose, comme le voulait le général de Gaulle, une majorité législative.
Merci pour cette question, Michel. Ce qui me permet, Jean-Philippe de Rosier, de vous faire préciser un point. Démission du président de la République ne veut pas dire dissolution de l'Assemblée nationale. Les deux pouvoirs fonctionnent indépendamment l'un de l'autre.
Tout à fait. Les deux sont déconnectés. Ce sont d'ailleurs deux articles différents de la Constitution qui ne sont pas coordonnés. La démission du président de la République, c'est l'article 7. La dissolution, c'est l'article 12. Simplement, si Emmanuel Macron dissout aujourd'hui, démissionne après-demain, c'est-à-dire dans 3 ou 6 mois, qu'il y a des élections dans 4 ou 7 mois, parce qu'elles ont lieu dans le mois qui suit la démission.
Dans le mois, nouveau... c'est-à-dire, après une démission, on a un mois pour organiser une nouvelle élection présidentielle.
On a entre 20 jours et 35 jours pour organiser l'élection présidentielle.
Et entre-temps, c'est le président du Sénat qui
C'est le président du Sénat qui assure l'intérim, tout à fait, comme ça a été le cas lorsque le général de Gaulle a démissionné ou lorsque Georges Pompidou... tout à fait, et lorsque Georges Pompidou est mort dans l'exercice de ses fonctions. Et donc, s'il y a ce scénario-là, d'abord dissolution, puis démission et élection d'un successeur Emmanuel Macron, ce successeur ne pourra pas dissoudre à nouveau à son tour, puisque vous vous souvenez qu'il y a un délai de carence d'un an entre des élections consécutives à une première dissolution et une nouvelle dissolution. Et ce délai de carence ne s'impose pas au président de la République, il concerne la dissolution de façon impersonnelle, donc sans lien avec qui est le titulaire de la fonction. Ce qui veut dire que s'il y a un changement de président de la République, le nouveau ne récupère pas ce droit de dissoudre.
Avant de prendre de nouveaux appels, parce que vous êtes nombreux une nouvelle fois à nous appeler aujourd'hui 01 45 24 7000, je voudrais qu'on fasse un crochet par le Parlement européen de Strasbourg pour accueillir notre invité Elio Di Rupo. Bonjour.
Bonjour à toutes vos auditrices et auditeurs.
Vous avez été Premier ministre de Belgique entre 2011 et 2014. Vous êtes aujourd'hui député européen. Merci d'avoir quitté l'hémicycle pendant quelques minutes pour nous répondre. Mais précisément, comment Strasbourg, comment l'hémicycle européen regarde-t-il cette crise politique française qui dure ?
Alors, je vais vous indiquer d'abord, je vous remercie d'avoir pris contact avec moi. Et vous dire que ce qui se passe en France, en interne, est d'une extrême importance pour l'Union européenne. Pourquoi ? C'est pas un secret, l'Europe va mal, l'Union européenne est en pleine crise, et pour résoudre cette crise, il faut des leaders qui initient des mouvements. Ces leaders ont été depuis le début le couple franco-allemand. Et ça reste une vérité, même si nous sommes 27. Et l'Allemagne, avec le chancelier Merz, a une majorité assurée pour l'instant à son Assemblée nationale, tandis que du côté français, on est dans une situation qu'on ne comprend pas à l'étranger. Et c'est extrêmement préjudiciable à tout le travail qu'il y a à effectuer au niveau européen. Et je rappelle que ce qui se passe au niveau européen a une incidence directe, immédiate et importante sur l'ensemble des Européens et donc sur l'ensemble des Français.
Vous faites référence, Elio Di Rupo, vous faites référence évidemment au contexte, aux menaces russes qui pèsent sur l'Union européenne ?
Non seulement il y a la menace russe qui pèse sur l'Union européenne, mais il y a les défis européens. Donc il y a non seulement les questions liées à la défense, mais il y a les questions liées aux industries stratégiques. Il y a des questions liées à l'environnement. Il y a des questions liées au pouvoir d'achat de nos concitoyens. Il y a des questions liées à l'agriculture. Il y a des questions liées à tout ce que nos citoyens français, belges ou autres vivent.
Elio Di Rupo, vous avez connu de nombreuses crises politiques. Permettez-moi, vous avez connu de nombreuses crises politiques en Belgique. Est-ce que vous pensez que le départ du président de la République peut aider à résoudre celle-ci chez nous aujourd'hui ?
Non, ma réponse est non. J'ai bien écouté et j'ai beaucoup de respect et je comprends ce que les juristes, les constitutionnalistes disent, et c'est tout à fait respectable. Mon sentiment est le suivant. L'Assemblée nationale française compte 577 membres, si je me souviens bien. Une majorité, ça veut dire à peu près 290 membres. Il n'y a pas 36 chemins. Il faut, si on veut exclure l'extrême droite et l'extrême gauche, il faut qu'entre les autres partis, et c'est ce que disait M. Attal il n'y a pas si longtemps dans la journée, il faut qu'il y ait un dialogue entre ces différentes formations politiques responsables.
Plutôt qu'un départ du chef de l'État. Je suis obligé de vous couper, Elio Di Rupo, on a un petit peu de mal à vous entendre depuis Strasbourg, mais merci infiniment d'avoir pris quelques minutes, parce qu'on voulait avoir le regard extérieur et européen, évidemment, c'est très important sur la situation politique en France. Question autour de la démission, question autour des mandats du président de la République, c'est la vôtre. Patrick, vous nous appelez de Rouen. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, je disais à votre interlocuteur que 2 fois 5 ans, c'est beaucoup. Depuis le début de la Ve République, il n'y a qu'un seul président qui a fait 2 mandats successifs, c'est M. Mitterrand, qui a fait 2 septennats, si je me rappelle bien.
Et Jacques Chirac, qui a fait 1 septennat et 1 quinquennat.
Oui.
Et le général de Gaulle, qui a été réélu en 1965.
Oui, mais M. Mitterrand, à la fin de son 2e septennat, il était sous cohabitation, non ?
Absolument. Et donc, ça pose la question du mandat unique, c'est ce que vous nous dites, Patrick ?
Bah, oui, ce serait quand même plus... Ce serait mieux d'avoir un mandat unique à 7 ans. D'abord, on arrêterait de penser au suivant dès le début du premier. Hein. Et puis, je ne sais pas si les Français sont uniques, mais au bout de 10 ans, voilà, il faut que ça s'arrête.
Merci Patrick pour cette question. Jean-Philippe Derosier, c'est la malédiction du second quinquennat. On a beaucoup dit ça à propos de Jacques Chirac notamment.
Oui, alors on n'a pas effectivement beaucoup de références d'un président qui parvient à se faire réélire. Le dernier en date, c'est Jacques Chirac, donc en 2002, ce qui remonte quand même à un certain nombre d'années, là ou dans un certain nombre de pays qui nous entourent. La réélection, la reconduction d'un chef politique, soit le chef de l'État aux États-Unis, soit le chef du gouvernement en Allemagne, par exemple, ou au Royaume-Uni, est beaucoup plus fréquente. Je n'ai jamais été favorable aux règles qui conduisent à préempter le choix de l'électeur. C'est à l'électeur de choisir s'il veut confier un deuxième mandat à un président de la République. Et en réalité, je suis assez réservé à cette limitation à 2 mandats. Si l'électeur souhaite reconduire encore une fois un président de la République en exercice, de quel droit est-ce que la Constitution l'interdirait ? Je pense que c'est un choix de l'électeur, c'est un choix démocratique. En 2022, Emmanuel Macron, en réalité, a été démocratiquement élu, c'est un contexte incontestable, mais il a été politiquement battu. Quelques semaines après, il y a eu les élections législatives, il a nettement perdu la majorité dont il disposait lors de son premier mandat, ils étaient plus de 300 dans sa coalition, ils reviennent à 240, loin de la majorité absolue. Et en réalité, la malédiction n'est pas la réélection d'Emmanuel Macron, elle est son incompréhension de la situation politique et institutionnelle. Il n'a pas su prendre conscience de cette défaite électorale lors des élections législatives de 2022. Pas une défaite cataclysmique, il conserve une majorité, mais très relative. Et ce faisant, il vient imposer une réforme extrêmement controversée, extrêmement contestée, qu'est la réforme des retraites, contestée sur le fond, contestée sur la forme, sans précisément s'ouvrir à l'écoute indispensable lorsque l'on gouverne en majorité relative.
Jean-Philippe Derosier, il y a un autre chemin pour que Emmanuel Macron quitte l'Élysée. Je me fais le relais de responsables politiques qui ont émis cette hypothèse ces dernières heures. C'est celle de la destitution, motion déposée début septembre par les Insoumis. Sa recevabilité doit être examinée demain par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est possible de destituer le président ?
Alors, constitutionnellement, c'est effectivement possible. C'est prévu par l'article 68 de la Constitution. Je ne pense pas que ce soit envisageable en l'espèce, pour au moins 2 raisons. Premièrement, la destitution est possible lorsqu'il y a un acte manifestement incompatible avec l'exercice du mandat. Je ne vois pas ce que Emmanuel Macron...
C'est quoi un acte incompatible avec l'exercice du mandat ?
Alors, on n'a pas de précédent. il n'y a pas de définition juridique, mais précisément, je ne vois pas ce qui, dans l'attitude d'Emmanuel Macron de ces derniers mois, de ces dernières années, pourrait caractériser un acte manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Il est président de la République, on peut contester
son positionnement. Et ne pas vouloir nommer un Premier ministre au-delà
c'est
de son propre camp,
c'est un choix politique. C'est un choix politique. Il ne viole pas la Constitution. Il promulguerait une loi qui n'a pas été adoptée par le Parlement. Là, on pourrait se poser la question. Il ferait révision constitutionnelle sur révision constitutionnelle en violant la Constitution. On pourrait se poser la question. Mais là, on peut encore une fois contester l'attitude politique du président de la République, mais je ne crois pas que ce soit constitutif d'un acte manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.
Qu'est-ce qui vous paraît à ce stade, Jean-Philippe de Rosier, je sais que l'exercice est très difficile, l'issue la plus probable à la crise politique que nous traversons?
Alors, je ne me projette jamais dans une boule de cristal, donc je ne veux pas faire de probabilité. Préfère analyser l'issue la plus souhaitable que la plus probable. Et vous aurez compris que la démission du chef de l'État ne me paraît pas souhaitable, car elle viendrait ajouter un élément de crise supplémentaire à la crise politique et parlementaire que nous traversons. Et l'issue la plus souhaitable serait de prononcer une dissolution et que, sans démissionner, le président de la République prenne l'engagement de se placer en retrait de ses aléas politiques, en n'intervenant plus dans le débat politique, en allant choisir un Premier ministre lui-même, en essayant de construire lui-même une majorité, mais de laisser faire les partis politiques à l'issue des élections consécutives à cette dissolution.
Dernière question, celle de Bernard de Lille. Est-ce que Emmanuel Macron pourra se représenter en 2032?
Alors, à supposer qu'il aille au terme de son mandat en 2027 et que son successeur aille au terme de son mandat en 2032, oui, Emmanuel Macron pourra à nouveau se représenter. La Constitution interdit deux mandats consécutifs,
mais pas trois après, avec une interruption.
Voilà, avec une interruption.
Merci Jean-Philippe de Rosier d'avoir été avec nous dans ce 13-14, 13h45. Une semaine dans leur vie. C'est notre feuilleton. Nous passons toute cette semaine au marché aux poissons de Fécamp. Seine-Maritime, la saison de la pêche de la coquille Saint-Jacques vient d'y débuter. Nous retrouvons sa patronne depuis une vingtaine d'années. C'est Nathalie Lecanu. Sa journée de travail commence très tôt.
Le rituel quand on arrive, les potes, les chaussettes. Oh, je rêve d'un jour où j'aurais pu faire ça, où je mettrais des tongs au bord d'une plage.
Alors, moi, je suis réveillée depuis 4h15 pour faire les achats, notamment à partir de 5h dans les criers. Par Internet, à distance, sur mon petit PC avec mon petit café à côté. Et donc, voilà. Donc là.
Est-ce que tu ramènes mon poisson ou je viens chercher? Tu le ramènes?
Alors, moi, c'est Nathalie Lecanu, la patronne du marché aux poissons que vous voyez en face de nous. J'ai 53 ans, ça fait depuis 1991 que je travaille dans l'entreprise qui était à la base familiale et maintenant qui est la mienne. Et avant, mon grand-père était armateur, donc avait des bateaux de pêche sur Fécamp. Alors là, il est 6h, donc on va sortir tout ce qui est dans le frigo que l'on a besoin en marchandises pour installer la poissonnerie. Ensuite, on va attendre que le transporteur vienne nous livrer. On va aller chercher le poisson que l'on a acheté en criée. On a la chance d'être à 200 mètres, donc on va y aller à pied. Et puis, on va installer, tout préparer au niveau des étals, au niveau des coquillages, crustacés, du poisson. Donc, en gros, on en a à peu près pour 3 heures de boulot avant l'ouverture. Alors, le transporteur arrive, donc on va décharger ses colis, on va les contrôler.
Comment on va installer tout ça? Nous n'auriez pu faire qu'une palette. Oh. Est-ce qu'il faut du filet de lingue? Active un peu parce que là, il est 7h30. Toi, ça fait 1h30 que tu es sur ta table pendant que nous on fait tout le reste.
Votre appel a été transféré.
Je ne réponds pas. Cette alarme, c'est mon fils, parce que j'ai un fils de 12 ans. Du coup, c'est pour bien vérifier qu'il est élevé pour aller au collège, qu'il est jeune et qu'il va être prêt quand je vais aller le chercher à 7h30 pour le déposer au collège.
Du bar de ligne. La poulpe qu'il faut vérifier. La poulpe et la sèche. La qualité, j'ai oublié de regarder. Et tu mets les quenelles là-bas.
La caisse dans le frigo, elle est vide.
C'est bon? C'est fou, ça. On est que 3 et on est presque en avance, comme quoi. Il est 9h. On ouvre la porte, il y a déjà des clients qui attendent devant. Bonjour, alors nous, Merci. J'aurais presque pu prendre votre billet de 10.
Si vous voulez.
C'est votre ticket à vous.
Ça marche. Merci. Bonne journée. Bon week-end.
Bonne journée.
Bonjour. Bonjour. Et donc là, ça se présente plutôt comme un marché où on n'est pas des, on n'a pas des étals, les gens passent derrière les étals et nous, on reste statique. Au contraire, ici, nous, on est en mouvement permanent avec le client. Donc ça marche avec un ticket où les gens prennent leur ticket et on les appelle.
Alors, 84 heures. 1,1 kg.
Qu'est-ce que tu me dis ?
Regarde, il y a un plateau là avec...
5 kilos de moules, monsieur Perron. Les huisses, c'est ça ?
C'est ça.
Okay. Je suis en train de finir les étiquettes par rapport aux achats de ce matin en crié. Et ce qui est obligatoire, c'est de faire des étiquettes avec des zones, des sous-zones de pêche. Du prêt, c'est mis de côté,
oui.
Voilà, en fait, il faudrait une équipe pour l'administratif et une équipe pour faire la poissonnerie. Voilà. Et là, t'es bien. Mais sauf que quand t'es un petit patron, c'est ta pomme qui fait tout ça.
Notre feuilleton à Fécamp, toute cette semaine, signé Mathieu Bonnour. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mardi 13h50, Cyril Petit du journal Ouest France nous raconte ces petites histoires qui en disent long. Et aujourd'hui, Cyril, petites histoires d'éclairage public.
Et je vous emmène, Jérôme, à Machecoul-Saint-Même en Loire-Atlantique. L'éclairage nocturne de cette commune de 7700 habitants vient d'être rétabli dans le centre Liton dans Ouest France. Ce n'était plus le cas depuis début 2023. Avec la flambée du prix de l'énergie, la municipalité avait décidé d'éteindre les lampadaires de 22h30 à 6h. Aujourd'hui, on a retrouvé des tarifs plus raisonnables, se réjouit le maire. Alors, sachez qu'en moyenne, l'éclairage représente 37% de la facture d'électricité d'une commune, indique le syndicat du secteur.
Mais ce retour de l'éclairage la nuit, donc dans plusieurs communes, est lié à d'autres raisons.
Oui, à la chute d'une commerçante par manque de visibilité, à quelques tensions et violences lors d'opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants. Je cite le maire, c'est aussi une demande des habitants qui ont le sentiment de ne pas être en sécurité. Alors, le maire dressera le bilan dans quelques semaines et proposera sans doute de rééteindre la lumière la nuit, mais moins longtemps, afin que les dernières sorties culturelles le soir, comme les premières embauches le matin, ne se fassent pas dans le noir.
Combien de communes restent éteintes, Cyril, et comment ça évolue ?
Eh bien, une grande étude satellitaire réalisée par le CEREMA, l'établissement public spécialisé dans l'aménagement du territoire, montre qu'au moins 12 000 communes éteignent totalement la lumière la nuit, dont un tiers qui ont pris cette décision à l'automne 2022. Selon la même enquête, à fin 2024, au moins 131 municipalités ont déjà rallumé l'éclairage nocturne et ça semble s'accélérer. En effet, ces dernières semaines, de plus en plus de communes réappuient sur l'interrupteur. Alors, des petites villes comme Puttelange-au-Lac en Moselle, mais aussi des bien plus grandes comme Calais dans le Pas-de-Calais à partir du 27 octobre ou encore Orléans qui redémarre lundi prochain. La préfecture du Loiret justifie ce choix par la modernisation de son réseau Liton dans la République du Centre avec bientôt 100% d'ampoules à LED, la consommation baisse de 50 à 60% et la facture aussi.
À ce sujet, de nombreuses communes innovent dans leur éclairage.
Et elles cherchent des solutions meilleures pour l'environnement, pour le porte-monnaie et pour le sentiment de sécurité. Je parle bien de sentiment, Jérôme, parce que le lien direct entre obscurité et insécurité réelle en France n'est pas clairement établi par les études actuellement.
On ne sait pas si mettre la lumière la nuit, ça encore fait diminuer l'insécurité, d'accord.
Alors, trois exemples de ces innovations, Jérôme. À Offranville, en Seine-Maritime, la puissance des 1200 points lumineux de la ville est abaissé de 30% de 23h à 5h, écrivent les informations diepoises. En Haute-Saône, Émoulins expérimente le déclenchement automatique des éclairages. Des capteurs infrarouges détectent les passages la nuit. Résultat, une facture annuelle qui baisse de 2000 à 500 euros, se réjouit le maire dans l'Est républicain. Et puis, troisième idée, Grandchamp dans le Morbihan expérimente un éclairage à la demande. Alors concrètement, les usagers peuvent allumer ponctuellement l'éclairage public. Il leur suffit de scanner via leur smartphone un QR code affiché sur le lieu en question.
Et ce week-end, Cyril, certains vont éteindre la lumière.
Oui, car samedi, Jérôme, ce sera le jour de la nuit, avec 400 événements labellisés par l'association Agir pour l'environnement, qui veut notamment sensibiliser à la beauté du ciel étoilé. Et puis, la ville de Changé, en Mayenne, y participera et réfléchit même à créer une trame noire. Alors, une trame noire, c'est un réseau de corridors écologiques obscurs pour protéger la biodiversité nocturne de la pollution lumineuse. Car rappelons, Jérôme, qu'il y a en France environ 9 millions de points lumineux d'éclairage public. C'est un chiffre pour briller en société.
Merci. Je l'ai.
Éclairage.
Merci. Oui, bien sûr. Merci, Cyril Petit. du journal Ouest France. De moi, ça me fait rire. De C'est la France à C'est une chanson, c'est un auteur et metteur en scène congolais que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier. Il s'agit de Dieudonné Nyanguna.
Dieudonné Nyanguna qui présente son nouveau spectacle à Paris cette semaine au théâtre de l'Athénée, Opération Rumba. Une plongée dans l'histoire de la rumba congolaise, et c'est de la rumba congolaise qu'il a souhaité que l'on écoute avec une chanson de l'artiste Pamelo Munka.
C'est un chanteur que j'ai beaucoup écouté dans mon enfance, beaucoup plus que les autres, pour une raison d'abord très particulière. Quand j'ai 4 ans et demi, mon père alors donne une année sabbatique à maman parce qu'il voulait respirer. Moi, en ce moment-là, j'avais 4 ans et demi. Maman donc me prend parce qu'il a eu une année sabbatique. Il laisse les aider, mes frères et mes soeurs aider chez papa.
Mais ça veut dire quoi, une année sabbatique?
Ah ben, je te donne une année où tu fais ce que tu veux, t'es pas à la maison. Mais on n'est pas séparés. C'est une respiration comme ça dans le couple pour mieux se retrouver. On pourrait dire ça comme ça. Maman, donc on va respirer chez la petite sœur de sa mère, toujours dans Brazzaville, dans un autre quartier. Et moi, j'étais petit, donc ils m'emmènent avec elle. Maman, elle était enseignante, professeure d'histoire géo, donc elle partait travailler le matin pour donner ses cours. Mais j'ai 4 ans et demi, je ne peux pas arriver à comprendre qu'il faut laisser maman aller travailler. Donc quand elle partait au travail, je pleurais. Sauf que cette année-là, Pamelo Munka venait de sortir l'album Essentiel. Et dans cet album-là, il y a notamment cette chanson que j'ai choisie qui s'appelle « Amour de Mombakele ». Et la radio congolaise et la télévision congolaise la faisaient passer en boucle à partir de 12h pour dire « Il est 12h à Brazzaville, heure congolaise ». Ils envoyaient la chanson donc de l'Essentiel. Je l'écoutais et bêtement, j'arrêtais de pleurer. Et une heure après, maman arrivait à la maison, les cours de midi étaient terminés, elle arrivait à la maison. Donc du coup, il y avait une relation comme ça entre 12h, la chanson qui passait, j'arrêtais de pleurer, et une heure après, maman arrivait.
Tu m'as mené par le bord de la mer, nana. J'ai rencontré l'amour à Nombakele. Lila Loyobaka Beningana Libreville. Je l'ai appelé amour de Nombakele. Tu m'as mené par le bord de la mer, nana. J'ai rencontré l'amour à Nombakele. Lila Loyobaka Beningana Libreville. Je l'ai appelé amour de Nombakele.
C'est au tout début des années 80 qu'est sortie cette chanson, Frédéric.
Et elle n'a pas cessé d'accompagner ensuite Dieudonné Nyanguna.
Quand on retourne chez papa avec maman, papa, c'est cette année qu'il va commencer à enseigner à Nice parce que mon père était le premier grammairien congolais, un grand ami à Léopold Sédar Senghor. Donc, quand il commence à enseigner à Nice, j'ai 5 ans, qu'est-ce qu'il faisait pour prendre l'avion? Donc, il faisait des allers-retours par trimestre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait « Nana Kumbanga, sinon je vais rater mon avion ». C'est ce que dit la chanson. Donc mon père le mettait pour dire à ma mère « Accompagne-moi à l'aéroport, sinon je vais rater mon avion ». C'est-à-dire « Sinon je vais rester là, à continuer à te regarder, à t'aimer, et ça me ferait rater mon voyage ». Et c'est ce que disait justement la chanson. La même chanson que j'aimais déjà 4 ans. Donc, dès que mon père le mettait chaque fois, on savait que là, il va prendre l'avion pour aller enseigner à Nice, qui reviendra dans 3 mois pour les vacances avant de repartir. Donc du coup, là, cette chanson prenait une autre relation avec moi. Avant, c'était pour attendre maman. Et là, après, c'était pour accompagner papa à l'aéroport. Quand j'aurais compris réellement ce que disait cette chanson-là, je serais autour de 9 ans, 10 ans. C'est pendant cette période-là que je commence à écrire des poèmes. Et c'était l'une, évidemment, des chansons, ou tout au moins l'une des œuvres, qui ont fait de telle manière que voilà, j'accède plus facilement à l'art de l'écriture.
Donc cette chanson, elle a vraiment bercé des moments importants de votre enfance.
De mon enfance, oui, oui. Entre mon père, ma mère et mon arrivée à l'écriture.
Nana Kumbanga, sinon je vais rater mon avion. Amour de Nombakele, Bilala Nombakele, Manaya Nombakele, Orange Nombakele.
Quand vous l'entendez aujourd'hui, cette chanson, elle vous met en joie?
Elle me met énormément en joie. Et quand j'étais artiste associé au Festival d'Avignon en 2013, je devrais créer un spectacle de théâtre, La Carrière de Boulbon. Donc j'ai créé ce spectacle-là qui s'appelait Sheda. Et l'une des musiques qui était vraiment centrale dans la pièce était évidemment cette chanson « Amour de Nombakele » qu'on faisait entendre dans toute la carrière de Boulbon. Donc c'est une chanson qui me porte, qui continue à me porter jusqu'à maintenant. Mes filles la connaissent parce que quand j'ai eu mes enfants, pour les faire dormir entre tel conte et telle histoire et telle berceuse, je glissais « Amour de Nombakele ». Donc mes filles aussi ont grandi avec cette chanson-là. Donc c'est quelque chose qui m'accompagne. C'est en même temps comme un talisman, comme un leitmotiv, en même temps comme une espèce de baume qui me caresse et oups, je me détends.
Et ça donne envie de danser.
Et ça donne envie de danser, oui.
l'amour de Nombakele, Pamelo Mounka. C'était donc, Frédéric, le choix de Dieudonné Nyanguna.
Dieudonné Nyanguna, dont le nouveau spectacle Opération Rumba se joue de demain à dimanche au Théâtre de l'Athénée à Paris.
Merci Frédéric et à demain.